Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
C'est une sorte de déséquilibre des commandes gyroscopiques d'un missile téléguidé par un faisceau radio.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Actualité cinéma et tout le reste.
Et pas sur le bec.
Ça te satisfait?
Transcendant. Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel.
Il n'y en a pas pour longtemps.
La radio.
Ici, avec nous.
Le silence. Plus vite, à reculons.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Un générique un peu long et surtout un générique spécial à l'occasion, malheureusement, de la mort de John Barry, grand compositeur de musique de film, et notamment eh bien, le thème de James Bond que vous venez de réentendre. À noter que dans cette émission, eh bien, on écoutera un petit extrait notamment de Goldfinger hein, qui avait marqué les esprits. C'est Cinérama, c'est l'émission du 2 février, une émission que je vais présenter en solo puisque Martin s'est un peu emmêlé les neurones. Hein, il est allé voir Throne, il avait prévu un dossier énorme comme ça. Pour vous parler eh bien, de Throne 1 et Throne 2, et eh bien, finalement Throne ne sort pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, donc il viendra plutôt la semaine prochaine vous parler de ce film de science-fiction produit par Disney. Sinon, au sommaire, aujourd'hui, eh bien, je vous parlerai, parce que du coup là je suis tout seul, donc je vous parlerai. Alors, un peu, mais un tout petit peu de John Barry. Je vous parlerai du Discours d'un roi, de la BM du Seigneur, hein, le film de Jean-Charles Hue, dont on n'avait pas pu diffuser l'interview la semaine dernière. Je vous parlerai aussi de Rien à déclarer, le film de qui vous savez, c'est-à-dire Danny Boone. Mais je vais débuter par Les chemins de la liberté de l'Australien Peter Weir, qui s'est à peu près frotté à tous les genres. Le film fantastique teinté d'apocalypse dès 1977 avec La Dernière Vague, le policier avec Harrison Ford dans Witness en 1985, le film plein de bons sentiments qui fait un carton avec Le Cercle des Poètes Disparus en 89.
Carpe diem. Profitez du jour présent, mes amis. Que votre vie soit extraordinaire.
Il a tâté de la comédie dans Green Card avec Gérard Depardieu en 90, le film d'anticipation ou de science-fiction avec The Truman Show en 1998 où Jim Carrey est en vérité prisonnier d'un programme de télé-réalité. Autant de films qui appartiennent à la précédente décennie. Alors qu'a-t-il donc fait au 21e siècle? Eh bien en 2003, et c'était son précédent long-métrage, il a sorti le fameux Master and Commander de l'autre côté du monde avec Russell Crowe, une épopée au fil de l'eau en pleine guerre napoléonienne, adaptation de deux romans, rien que ça. Et c'est là encore un roman qu'il porte à l'écran avec Les chemins de la liberté, dont le titre original est The Way to Back, juste donc le chemin de retour. Il faudrait un jour en finir avec les traductions débridées. Adaptation d'un livre quelque peu romancé de Slavomir Ravix, racontant l'histoire d'un soldat polonais échappé d'un goulag en Sibérie, qui aurait, avec cinq autres hommes, fait un extraordinaire voyage de la Sibérie jusqu'en Inde, en passant donc par le désert de Gobi en Mongolie et la chaîne de l'Himalaya en 1939.
Il y en a très peu qui arrivent à s'échapper. J'attends depuis si longtemps un type comme toi. Un gaillard bien costaud avec une volonté à toute épreuve.
Mais pour aller où? On peut pas aller à l'ouest. On tomberait sur les Allemands et les Soviétiques. Et à l'est, c'est pire, il y a les Soviétiques jusqu'au Pacifique. Non, il y a un seul moyen, il faut marcher au sud.
Exact.
Mais tu sais où on est?
Je veux dire exactement.
Je pense qu'on est à environ 500 km au nord du lac Baïka. Regarde, ça c'est le lac. Le camp est ici et la frontière est là.
Il faut suivre les rives du lac. Ça nous conduirait au sud.
Tout à fait. Et ensuite, on passe la ligne du Transsibérien vers la Mongolie et à nous la liberté. Le printemps est tout proche, il faut attendre l'automne.
Non, pourquoi attendre?
Pourquoi? Parce qu'il y a 1000 km jusqu'à la frontière, peut-être plus. Il faut élaborer un plan et engranger de la nourriture. J'ai déjà commencé à trafiquer, alors à toi de faire la même chose.
et en automne, le temps est plus prévisible. Et on profitera de la neige pour couvrir nos traces.
J'emmène mes amis.
Des amis, tu leur fais confiance?
Naturellement.
Ils ne survivront pas tous.
Mais ils mourront en homme libre.
Alors évidemment, le pari est osé, hein, et on pourrait se dire que si le plan d'évasion fonctionne, tout ce qu'il pourrait bien atteindre, c'est la frontière soviétique. Oui, mais dès le début du film, on nous prévient que c'est l'histoire d'hommes valeureux qui ont fait tous ces kilomètres que l'on va bien voir sur notre écran. Donc on l'admet, on y croit, on mettra de côté notre émerveillement pour l'aspect surhumain du périple, et on va plutôt s'intéresser à l'humain. Peter Weir nous décrit le goulag, donc une ambiance rude, froide, maladie, violence, avec des prisonniers de droit commun et des prisonniers politiques, et ce que dit le chef de camp, la Sibérie est votre prison, la nature est impitoyable, si elle ne vous tue pas, les habitants de la région le feront, ils reçoivent une prime pour chaque fugitif abattu. C'est pas bien engageant, mais cet espoir, ce fichu espoir, finalement, eh bien, va faire sortir nos prisonniers. On regarde donc la vie du goulag, on fait la connaissance des personnages, et dans le tas, on trouve un malfrat tatoué plein de dents cariées, Colin Farrell, un Américain interprété par Ed Harris, plus un artiste brimé, un cuisinier, et un autre dont on ne sait pas très bien ce qu'il est. Voilà, le casting est bon, on peut s'évader. L'évasion, on la voit à peine, preuve que Peter Weir ne voulait pas surjouer le suspense ou qu'il a été coupé au montage, et finalement ce n'est pas plus mal car le chemin est long de la Sibérie à l'Inde. Et c'est bien dans la force épique qu'est l'intérêt du film. Beau paysage, huis clos dans l'immensité, rapport entre ces hommes qui doivent boire, manger, se soutenir, y arriver, le froid, le très froid, le chaud et le très 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 chaud.
Non, c'est un autre mirage.
On n'a plus une goutte d'eau. Là-bas, il y a des arbres. Ici, il y a des arbres, il y a de l'eau.
Non, c'est ridicule, Céleste.
Il faut aller au sud. Mais enfin, il faut qu'on essaye d'avoir de l'eau.
Non, non, il faut continuer vers le sud. Tu vas tous nous tuer.
Mais putain, rends-toi à l'évidence. On est déjà en train de mourir. On est déjà en train de mourir.
Oh, l'été.
Et après le chaud et le très très chaud du désert de Gobi, il y a la Chine et puis le Tibet. Donc il y a le haut, le très très haut. Et pendant ce voyage incroyable, une rencontre, il y en aura peu, une rencontre qui va donner de la matière à Peter Weir pour étoffer les personnages qui se trouvent dans cette galère. Car ce personnage va humaniser un peu plus ces prisonniers qui, même s'ils avancent, tournent en rond. Il les fera parler comme un catalyseur. Alors je cache volontairement l'identité de ce personnage, sinon il n'y a plus de surprise et c'est quasi la seule. Alors on ne passe pas à côté de moments dramatiques, hein, ça n'est pas non plus une histoire revisitée par Disney, mais jamais de pathos, au contraire, une forme de sobriété, comme si tout le spectacle que peut produire le cinéma devait s'effacer face aux 6500 km parcourus par ces hommes. La mise en scène, l'emploi de la musique, le rythme du film, tout cela est assez classique et pourrait ennuyer, mais c'est justement la retenue, la beauté ou le sublime des paysages, comme ce qui se joue entre ces personnes épris de liberté, qui nous tient en haleine. Il faut dire aussi que Peter Weir a ajouté des éléments fictionnels au récit initial qui prenait déjà des libertés avec la vérité qu'on ne connaîtra jamais vraiment. Alors mourir libre plutôt que vivre enfermé, on n'est quand même pas loin de ça.
Carpe diem. Profitez du jour présent, mes amis. Que votre vie soit extraordinaire.
Voilà donc un film adapté eh bien, d'un récit de Slavomir Ravix, donc, qui était soldat polonais, qui prétendument était enfermé dans un goulag. Finalement, après une enquête de la BBC polonaise en 1999, eh bien, il apparaît que celui qui raconte le récit n'a pas vraiment vécu l'événement. Alors, n'empêche que c'est vraisemblablement une histoire qui est arrivée. Est-ce que dans les détails c'était comme ça que ça s'est passé? On ne le sait pas. En tout cas, il y aurait des archives au niveau de l'armée polonaise. Voilà. Donc, si vous voulez faire des recherches sur Internet, faites-les. En tout cas, ça ne vous gâchera pas le plaisir de ce film, Le Chemin de la Liberté, qui est projeté au Diagonal Capitole en version originale sous-titrée. C'est toujours Cinérama, émission du 2 février, et nous passons à Rien à déclarer, de Danny Boone et du beau monde, notamment Benoît Poulvorde, Bully Lanners, Karine Viard et Zinedine Swalem. Alors, Bienvenue chez les Ch'tis, sorti il y a 3 ans, fut le 2e plus grand succès de l'histoire du box-office français. Alors, comment, rien à déclarer, pourrait-il faire mieux ? Est-ce que la question est intéressante, même si j'ai ma petite idée ? Est-ce que si vous avez ri à Bienvenue chez les Ch'tis, vous allez rire à rien à déclarer ? Alors, pour ce qui est du rire, oui, peut-être, mais il n'empêche qu'il s'est perdu quelque chose entre les deux films et je parie qu'ils n'auront pas le même succès. Bon, déjà, Daddy Moon ne base plus son film sur une opposition franco-française, le Nord et le Sud, et tous les clichés et lieux communs qui vont avec. Il base cette fois-ci son scénario sur un clivage franco-belge. Nous sommes dans une ville frontalière avec un poste de douane qui va vivre ses derniers jours au grand dam d'un douanier belge bourré de mauvaise foi, interprété par Benoît Poulvorde. Alors, il déteste les Français, et pour lui, ouvrir la frontière, c'est fatalement laisser entrer le vice sans retenue. Un type qui n'existe pas, hein, dans la vie réelle, c'est un personnage caricaturé, un gros raciste qui va jusqu'à bourrer le crâne de son fiston. Alors la seule excuse qu'on lui trouve, c'est que son père est pareil. De ce côté de la frontière, ça ne va pas loin dans la psychologie du personnage, puisque Poulvorde est constamment dans l'excès, dans l'aigreur, et on rit à ses dépens. Alors de l'autre côté, il y a un douanier français sympa comme tout, là c'est Danny Boone, et le problème de Danny Boone, c'est qu'il est amoureux de la sœur du gros raciste. Elle qui, sympa, même si elle n'est pas contaminée par sa famille, ne va pas leur dire qu'elle aime un Français. On est pourtant en 93, mais bon, faut pas exagérer, à cette époque, la femme devait pas être si libérée et fière de son bonheur. D'autant que bon, il y a un mauvais exemple d'amour franco-belge avec les proprios du café entre les deux postes de douane.
C'est n'importe quoi ce prix! C'est même pas la moitié de ce qu'on a payé il y a 8 ans!
C'est la meilleure offre en 6 mois, Madame Lanus!
Janus, avec un J, s'il vous plaît!
Pardon?
Bah vous nous l'avez bien vendu à nous, pourquoi pas à d'autres?
C'est une affaire en or, riche monsieur! C'était, monsieur Janus! C'était! Au 1er janvier, qui va s'arrêter pour rentrer dans les commerces frontaliers? Qui?
Bon, allez, ça va! On va se débrouiller tout seul comme des grands! Et on boira un verre à votre santé chez le notaire avec vos 5%!
Ne le prenez pas comme ça!
C'est ça, c'est bon! On a assez perdu de temps avec vous, merci, au revoir!
Tu dis comment on fait maintenant que tu l'as verré.
Faut qu'on le vende à un pigeon. Quelqu'un qui est pas au courant du passage à l'Europe. Quelqu'un comme toi, quoi. Qui lit pas la presse, qui écoute pas la radio, qui regarde juste la télé, mais sans comprendre ce qui se dit, hein. Et ça, crois-moi, un abruti de ton gabarit, ça va pas être facile à trouver.
Des personnages caricaturaux, des situations rocambolesques, on est souvent dans l'outrance, dans la démesure, dans l'à peu près du scénario. Alors prenons un exemple, la douane est supprimée entre la France et la Belgique, donc il y a une douane volante expérimentale qui est mise en place et qui va réunir nos deux rivales. C'est le nœud du film, comment vont se comporter les frères ennemis ? Que voulez-vous qu'ils aient comme voiture ? Eh bien, ils ont une quatrelle rouillée, prétexte à des scènes attendues où forcément la pauvre voiture va être défaillante. Mais le scénario étant très arrangeant, au bout d'un moment, eh bien, ils vont avoir dans les mains un bolide qui ferait pleurer les amateurs de Go Fast. Alors après, dans les personnages, il y a l'idiot, le collègue feignasse, la pète sec, le malfrat gaffeur, la jolie fille, et il y a même l'immigré de service interprété par Zinedine Soilem qui a joué un rôle merveilleux pourtant dans la comédie Le Nom des gens, un rôle plein de dérision sur le cliché de l'immigré serviable. Eh bien là, il est à peine un faire-valoir. Alors, qu'apporte l'écran de cinéma pour ce film, peut-être les rires du public et une sorte d'encouragement à rire, précisément. Mais lors de la projection aux journalistes, si l'on entendait un rire de ci, de là, à la sortie, c'était plutôt la grise mine avec une pointe de déception. Alors Danny Boone se défend en expliquant qu'il a fait un film pour le public, pour qu'il se torde de rire. N'empêche qu'au cinéma, on peut faire autre chose que flatter le public, on peut l'emmener avec soi sur un sujet, comme Le Nom des gens précédemment cité, ou comme dans De vrais mensonges de Pierre Salvadori, qui épuise un thème avec la classe et le talent d'un cinéaste qui ne fait pas des films que pour le rire, mais aussi avec un souci de mise en scène. Avec Danny Boone, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, rien à déclarer, forcément, on passe dans beaucoup de cinémas à Montpellier et ailleurs. Et vous pouvez tenter le spectacle. Tandis que Bruno se fait masser, puisqu'il va y avoir un certain nombre de sons à balancer encore dans cette émission Cinérama du 2 février, je vais vous parler de la BM du Seigneur. On devait vous passer l'interview de Jean-Charles Hue la semaine dernière. On n'a pas pu parce qu'on avait un sommaire trop volumineux. Cette fois-ci, c'est possible. Donc on va évoquer ce film, la BM du Seigneur. Je vous raconte brièvement l'histoire. Chez les Yéniches, communauté de gens du voyage, le respect des aînés et la ferveur religieuse côtoient indifféremment le vandalisme. Fred Dorkel est l'un d'entre eux, craint, estimé par les siens. Il vit du vol de voiture. Une nuit, sa vie bascule. Un ange lui apparaît, et il lui apparaît dans une voiture qui est une BMW. Pour Fred, c'est le signe d'une seconde chance qu'il doit saisir. Il décide de se ranger, mais ce choix va l'opposer à sa famille. On écoute l'interview de Jean Charlus.
Les gars, vous êtes vraiment pas des voyageurs, les gars.
D'où qu'on n'est pas des voyageurs. Non, mais c'est quoi, toi, c'est quoi, ma couille, pour toi, un voyageur, ma couille, c'est venir sur des places comme ça, manquer d'écraser les gosses. D'où je vais te le dire, ma couille, c'est quoi le rabouin, le voisin du rabouin, ma couille, c'est tout ce mal dans la main. Ouais. Nous, on est des vrais. Regarde mon copain aujourd'hui, regarde.
Ouais.
Regarde les voyageurs comme ça, venus, ma couille, à se tuer entre amis comme ça.
Bah alors.
Tu appelles ça un rabouin?
Bah moi.
T'appelles ça un rabouin, ma couille, à se tuer comme ça entre amis?
Non.
J'aurais honte, moi, ta place, mon copain.
Je pense.
Si, moi, ta place, sincèrement, j'aurais honte. Et maintenant, écoute, mon copain, moi, je te le dis, hein. Comme tu as de courage, crois pas qu'il y aura du monde avec toi. Tu te fais massacrer, tu te fais massacrer.
Je me fais massacrer.
On bougera pas, mais tu es tout seul.
Je m'en fous, bah, je serai tout seul.
Moi, je te le dis. Moi, je te le dis.
Mais il y en a un qui bouge, bah, il en prendra autant, et puis voilà.
Mais qui va bouger, mon copain? On est des putains, nous, tu t'as plusieurs dessus, salope. Tu viens faire la putain, là. C'est toi qui viens faire la putain,
non,
mon copain.
Non, mais attends. Mais de où, putain, putain.
Mais oui, t'es une putain, mon copain. Moi, si je viens chez toi, ma couille, avec une auto, faire du dégât comme ça, là, parce que bulle tes petits bras, t'as faire quoi, toi?
Je te tue.
Alors, et nous, on doit faire quoi, nous? Pas de tuer, nous.
Qu'est-ce que tu
on devrait pas de tuer, nous.
Tu fais quoi, là?
Ouais, je te le dis, mon copain.
Tu fais quoi?
Tu vas peut-être avoir un combat, mon copain.
Tu fais quoi?
Il va t'en mettre plein la tête, moi je te le dis, moi. T'as compris?
Pousse-toi,
mon copain. Moi je te le dis, par contre, écoute-moi.
Ouais, bah, et bah on verra comment ça verra, ma couille. Tu me prends pas le coup comme ça, ça va pas, là. Bah, vas-y.
Je te
sais pas, moi.
En vérité, je te perds du mal. T'as de la chance que tu te bats avec le gamin.
Bah, tu verras, moi je t'ai
montré. Parce que ça serait
avec
moi, tu t'aurais battu. Moi je te le dis, mon copain.
Ça
aurait été avec moi, tu t'aurais battu.
Ouais, je vais te faire montrer.
Ouais.
Et puis laisse la porte ouverte de ma fiancée.
Ferme ta gueule, mon copain. Moi, t'es mort. Attends de la mort que tu prennes plus.
Ouais, bah, je m'en fous, mais on verra. Laisse ça ouverte, tu fais quoi là?
Enculé.
Ouais, bah c'est bien, avec ton cul. Ouais, bah voilà, laisse tomber.
Il y a beaucoup de mots, enfin beaucoup, pas tant que ça quand même, mais il y a beaucoup de mots qu'on apprend au long du film, même si on apprend. Enfin. Les michetos, les levés, les trucs, les machins, les petsaraves, enfin tous les ou le jukel, bon, on comprend vite que jukel, comme c'est un chien. Mais bon, c'est pas tant leur vocabulaire, parce qu'il est pas si nombreux que ça, finalement, qu'on vocabulaire dans le jour, c'est leur façon de parler, où ils mâchent les mots, etc., qui on chope pas tout, quoi.
Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai dit. C'est bon. C'est bon, je ramasse mon linge, j'y tombe de l'eau.
Viens là.
C'est
pas disparaître près, moi, viens, montre.
J'arrive.
Qu'est-ce que t'as, toi, là-bas, avec grosse tête, là, hein? Qu'est-ce que t'as, là? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce que t'as, là? Hein? Je vais te crever, ouais. Tu te prends pour quoi, grosse tavette, là? Tu veux me crever, tu vois, c'est qui?
Ta gueule, mon copain. Vas-y, tire, mon copain, là, tire.
Moi, je pense que le film peut se passer de ça, parce qu'il n'y a pas une narration qui fait qu'on doit... Il n'y a pas une phrase qu'on va louper, à part une, peut-être, on m'a dit, effectivement... Quand il va acheter l'autre il veut acheter le flingue et l'autre lui dit écoute si tu me ramènes une BM blanche je l'échange contre le Pushka. Bon, l'autre il dit ok, bon ça on comprend, mais à un moment il dit mais fais gaffe parce que le gadjo il m'appelle Sarav quand même, alors fais gaffe, ça veut dire il m'a déjà payé le gadjo, ça veut dire qu'il m'a payé, sous-entendu aussi j'ai peut-être dépensé déjà les sous, donc si tu t'engages là-dedans tu engages mon honneur, tu déconnes pas, et puis surtout je veux pas avoir de problème, donc tu me ramènes à tout prix la bagnole. Et donc quand on le voit après dans le film avec son P38 dans la camionnette bourré en train de voir le flingue, il est pas en train de se dire ah la bonne époque où j'avais un flingue, non, il se dit ah mon dieu putain mon frère je lui ai pris le flingue et je lui ai pas ramené sa putain de BM, et en plus il a déjà été payé pour. Donc il m'a dit Gilles, là le gars Joe il va louper quand même ce petit renseignement, certains vont le percevoir, ils vont se rappeler qu'il y a une histoire de BM. Mais voilà. Mais à part ça, je pense que tout le reste, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas, ça me paraît pas. On comprend suffisamment l'essentiel des mots, surtout chez certains, comme Michael qui parle plus clairement, je crois, pour ne pas avoir à se dire ah mon Dieu, je souffre, j'ai pas compris le film.
Le BM, t'as été chercher le BM?
Quel BM? C'est terminé, mon frère. Moi, je ne trouverai plus.
Dans la vie, dans tout, il n'y a rien qui va avec la femme, avec... On dirait que je suis plus l'homme que j'étais avant. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur de ce qui va se passer. Je suis faible, Seigneur. Je suis faible.
Pour eux, quelqu'un, un tchouraveur, il ne va pas dire « Ah, bah moi, la BM, c'est une religion. » Mais j'ai bien vu, avec le temps, que tous ceux qui allaient tchour, le volet, ils avaient principalement des BM. Bon, pourquoi? Parce que c'est une bagnole rapide, solide, fiable et qu'on trouve facilement. Une Mercedes, c'est peut-être meilleur, mais on en trouve moins facilement. Alors que, en tous les cas, on peut facilement trouver une BM. Puis ils les connaissent par cœur pour la conduite, la piloter. Voilà. Quand ils se font poursuivre par la police ou autre chose. Donc, les gars, pour moi, à chaque fois que j'ai vu, c'était la BM. Donc, je me suis dit, il y a vraiment ça ici. Et quand j'allais dans les grandes réunions évangéliques et je voyais ceux qui allaient faire les cons avec les BM dans un coin alors que les autres allaient prier sous le chapiteau, je voyais bien que surtout les autres, ce qu'ils prenaient, c'était des BM. Donc pour moi, il y avait deux camps. Il y avait le camp des mecs en BM, un peu, bon, je caricature, parce qu'il n'y a pas que des BM, mais principalement. Et puis il y avait ceux qui allaient prier sous le chapiteau. Et donc je m'étais dit, un peu, sans vouloir blasphémer, mais je m'étais dit un peu à l'époque, mais et si Dieu venait ce soir, non pas pour aller voir les croyants, enfin, si le Christ venait ce soir, non pas pour aller voir les croyants, parce que les croyants, là, peut-être, ce n'est pas ceux-là qui doivent être sauvés tout de suite, parce qu'ils sont déjà croyants, baptisés, mais ils devaient aller voir ceux qui sont à sauver, c'est-à-dire ceux qui viennent de voler des bagnoles ou gadgets, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ne viendraient pas ce soir, imaginons, dans une BM? Bien sûr, il ne va pas la voler. Mais ils viendraient dans une BM en disant, regardez, les gars, on va discuter. Bah oui, je suis comme vous. Puis alors, d'abord, on va parler bagnole, on va parler moteur, on va parler châssis. Et puis, il va sympathiser. Et puis après, il va dire, ouais, mais les gars, vous comprenez. Alors, je sais que certains m'ont un peu reproché en disant, ouais, mais là, ça fait bizarre, la BM du Seigneur. Et je dis, oui, mais artistiquement parlant, c'est comme en poésie, c'est beaucoup plus fort de dire la BM du Seigneur, parce qu'il y a une vraie ambiguïté. Voilà. C'est pas que je veux mettre une ambiguïté dans dans Dieu, je veux mettre une ambiguïté dans le fait de nous, comment on peut voir aussi Dieu parfois. Parce qu'il y a des mecs qui sont au milieu. Ils ne sont pas dans la BM, ils ne sont pas dans le Seigneur, ils sont avec la BM et avec le Seigneur parfois. Et ils sont chamaillés là-dedans, quoi. Ils sont chicanés par ça. Et donc, du coup, je me suis dit, la BM du Seigneur. Et le problème de Fred, c'est la BM du Seigneur, quoi. Et à un moment, il doit choisir entre les deux, mais il est confronté aux deux en même temps, quoi. Bien sûr qu'on commence avec un mec comme ça, balèze, certains ont dit obèse. Maintenant, aujourd'hui, il ne fait plus que 110 kilos, hein. Il faisait 148 à l'époque. Donc, c'est plus le même homme. On se dit, ah, un peu édenté, machin, un peu bizarre, un peu... Bon, bien sûr, il y a ce premier regard-là. Mais si au bout d'une heure et demie, on voit... il faut qu'on oublie que Fred, c'est ce mec-là un peu qui peut être inquiétant, il faut, ou qui est giton, je ne sais pas trop quoi. Il faut se dire, ah, ce mec-là, ça pourrait être mon pote, ça pourrait être moi. Il se pose une question qu'on s'est tous posée, et ainsi de suite. Et donc, si on finit le film dans cette curiosité sur le gitan, ben on a loupé un truc, je pense. Moi, j'ai loupé un truc et le film a loupé quelque chose. Voilà. Donc, j'espère que le film fait parcourir à certaines personnes un peu de ce que moi, j'ai réussi à parcourir. Partir un peu de « Ah, les gitans », et on finit par « Bah oui, bah, c'est comme tout le monde, quoi. »
Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui
Jean-Charles Hue dans le cinérama du 2 février et son film La BM du Seigneur est projeté au cinéma Diagonal à Montpellier. On va partir en musique avec John Barry, puisque John Barry, grand compositeur, est mort le 30 janvier. Un compositeur britannique de musique de film, il est connu en particulier pour la musique d'Out of Africa de Sidney Pollack, de Danse avec les loups de Kevin Costner. Il a d'ailleurs reçu l'Oscar de la meilleure musique pour ces deux films. Et puis, il est aussi le compositeur des musiques de James Bond, dont il refait le thème. Et puis, pour la télévision, eh bien, il a composé aussi le célèbre générique de la série Amicalement Vôtre. Et on avait fait un petit hommage aussi à l'occasion de la mort de Tony Curtis, un des acteurs d'Amicalement Vôtre, qui, je crois, nous a quittés en décembre. Et là, eh bien, nous allons écouter le grand succès Goldfinger avec Shirley Bassey.
Pretty girl, beware of this heart of gold.
Et oui, c'est pour ça qu'il a été connu, John Barry, avec Shirley Bassey. Au chant, une musique de 1964, c'était Goldfinger, extrait de la bande originale du film de James Bond. C'est toujours Cinérama, émission du 2 février, émission en solo, Saint-Martin, qui reviendra la semaine prochaine. Et nous passons à un film de Tom Hooper, britannique, lui aussi, comme John Barry, avec Le discours d'un roi. Dans la distribution, il y a Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi. C'est un film multinommé aux Golden Globes, récompensé, peut-être récompensé aux Oscars. Le film raconte l'histoire vraie du père de l'actuelle reine Elisabeth, un homme qui va devenir par la force des choses le roi George VI, suite à l'abdication de son frère Édouard VIII. Jusque-là, on a tout compris. D'apparence fragile, incapable de s'exprimer en public, ce roi George VI doit absolument corriger un handicap redoutable pour une personne de son rang, le bégaiement. D'autant plus qu'il n'a pas de chance, le bon roi. Mais l'époque est trouble, nous sommes en 1936, soit pendant la montée du nazisme, et le royaume anglais doit choisir son camp, car la guerre pointe son nez. Et avec tout ça, le monde non seulement a déjà eu ses révolutions anti-tête couronnée, mais en plus des nazis, il y a les bolcheviks. Alors même s'il est appelé, rappelé, dans le film, qu'au Royaume-Uni, au pays des rois gentils, le roi règne tandis que le Premier ministre gouverne, il est quand même celui qui rassemble la voix du peuple. Et la voix du peuple, à cette époque, passe par la radio, qui est en pleine explosion. Alors même si on ne peut pas enregistrer des discours, on peut facilement déplacer des studios. Et grâce à cette diablerie de micro, on peut ensuite être entendu dans les chaumières. Il faut donc maîtriser le discours. Alors notre roi George VI est bien aidé par sa femme, son Altesse, qui cherche pour lui les plus grands spécialistes du bégaiement, mais qui par leur méthode finalement ramène le roi à ses mauvais souvenirs d'enfant. Puis vient la dernière chance, chez un thérapeute du langage aux méthodes peu conventionnelles, et c'est rien de le dire, un Australien qui aspirerait à être comédien plutôt qu'à soigner les troubles liés à la parole. Alors dans son cabinet singulier, des machines dernier cri comme un casque audio ou un enregistreur sur galette vinyle, dont j'ai appris l'existence et sa simplicité d'utilisation dans ce film. Car oui, Le discours d'un roi est un film d'époque, avec des inventions de l'époque, des costumes de l'époque. Alors il y aurait aussi, semble-t-il, des invraisemblances historiques, je mets au conditionnel car j'ai lu un article sur le site Slate.fr de Christopher Hitchen, chroniqueur à Vanity Fair, qui commence ainsi son article « Le discours d'un roi est truffé de grossières falsifications historiques ». Alors l'auteur critique le mythe répandu dans le film d'une famille royale, lisse et exempte de tout reproche. Édouard VIII, le frère aîné de George VI, celui qui a abdiqué donc parce qu'il voulait absolument se marier à une femme américaine deux fois divorcée, ce qu'il affiche mal quand on est chef de l'église anglicane, était aussi un admirateur d'Hitler et a toujours gardé de bons contacts avec ses amis nazis avant d'être définitivement bazardé par Churchill, gouverneur des Bahamas. Alors dans cet article, la posture idéale de Churchill dans le film est aussi mise en cause. Dans l'article de l'émission Cinérama sur le site internet de Divergence FM, vous avez un lien qui vous mènera à l'article de Slate.fr pour faire le point, parce que bien sûr ce serait un peu long. Ici il s'agit de cinéma, donc on va s'attacher plus à la forme cinématographique qu'à la véracité historique. Alors de ce point de vue, Tom Hooper maîtrise parfaitement son sujet, le scénario est très bien ficelé, les dialogues sonnent parfaitement bien, et c'est d'autant plus important qu'on est là face à un bègue et qu'il doit se sortir donc des ornières du langage. Le film peut se voir comme une fable sur la communication. Alors il y a la radio, la communication de masse, le cadre familial de la royauté avec le dur apprentissage des convenances, quoi dire, avec qui et comment, et puis le discours politique et enfin l'amitié avec une relation particulière qui s'établit entre notre bon roi George et son thérapeute qui d'emblée souhaite, dans le cadre de la thérapie, dit-il, abolir la distance qui sépare un roi de son sujet et en viendrait facilement aux familiarités ou au moins à l'intime, mais pénétrer les souvenirs de sa majesté, cela relève du crime, si l'on est, eh bien, surtout un simple roturier. La langue est belle, parce que le prince est éduqué, que le thérapeute cite du Shakespeare comme il respire, ce qui donne incontestablement au film une bonne tenue. L'enjeu de ce fameux discours est énorme, il s'agit ni plus ni moins d'une déclaration de guerre qu'on ne peut faire en bégayant, surtout quand en face on a en Allemagne un petit moustachu qui éructe et qui lève les foules. Notre roi sera d'ailleurs fasciné par les images d'actualité venant du Troisième Reich, lui le bègue qui ne s'était jamais préparé à être roi alors qu'il en avait toutes les qualités. Les deux acteurs sont formidables et la mise en scène leur donne bien l'occasion de briller. Mais soulignons-le encore une fois, la véritable histoire est ici une histoire d'amitié entre un homme au-dessus des autres et puis un autre qui se réalise à travers lui, même s'il s'en défend.
Mon époux est obligé de s'exprimer en public.
J'ai été chargé.
Peut-être devrait-il changer d'emploi.
Impossible. Et si mon époux était le duc d'York?
Pardon, votre...
Altesse royale.
Altesse royale.
Mon époux a consulté tout le monde en vain.
Articulé.
Il ne m'a pas rencontré, moi. Quel est votre souvenir le plus ancien?
Je ne viens pas ici livrer mon intimité.
Pourquoi êtes-vous ici, alors?
Pour mon futur bégaiement!
Connaissez-vous des histoires drôles?
Jamais je n'arrive jusqu'à la chute.
Vos méthodes sont peu orthodoxes et controversées.
Et hop, votre Altesse royale s'élève.
C'est assez amusant.
Mon frère s'est amouraché d'une femme qui s'est mariée deux fois. Wallis Simpson. Je ne suis pas un roi. Je suis un officier de marine. La nation croit que quand je parle en son nom, mais j'y arrive pas.
Pourquoi perdre mon temps à vous écouter?
Mais parce que j'ai une voix!
Oui, en effet.
C'est l'heure.
Votre premier discours en temps de guerre.
Quel que soit le résultat, je ne sais comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait.
Le discours d'un roi réalisé par Tom Hooper est projeté au Gaumont Multiplex et au Gaumont et au Multiplex CGR. Ça sera en version française et puis en version originale sous-titrée, ce sera bien sûr au Diagonal. On continue avec Cinérama. Avant de retrouver les événements, on va réécouter un autre extrait bien de la grande carrière de compositeur de John Barry.
Thank you.
Voilà, deuxième extrait de l'émission pour un tout petit hommage à John Barry, compositeur qui nous a quittés. C'était le 30 janvier. Nous passons très vite à l'agenda de cette semaine avec demain soir, dans le cadre des rencontres de l'éducation artistique aux images en Languedoc-Roussillon, une séance unique suivie d'un débat avec Jean-Michel Frodon, critique de cinéma, journaliste et écrivain, et de Philippe Faucon, réalisateur, autour de la projection à 20h05 de son film « La Trahison ». Trahison, donc un film, un des rares films d'ailleurs sur l'Algérie et tout ce qui a pu se passer pendant le conflit.
Je vous ai fait venir pour vous expliquer ce qui s'est passé hier. Comme vous avez vu, il y a eu un accrochage. Et pendant l'accrochage, le sergent Lassène qui était avec les Félagas s'est rallié au para.
Ce n'est pas vrai. Tu mens.
Non, je mens pas, c'est la vérité.
Alors il faut le tuer, c'est un traître.
Du calme. Taïb, qu'est-ce que t'en penses?
Donne-moi ton arme et je vais le tuer tout de suite.
Pourquoi tu veux le tuer? Il est avec nous maintenant.
Il n'est pas avec nous. Il n'est ni avec les Félagas, ni avec les Français. Il a trahi les uns et les autres.
C'est peut-être pas aussi simple.
Si, c'est très simple.
Voilà, Trahison, un film qui raconte comment les appelés algériens devaient choisir. Alors, appelés algériens qui allaient dans l'armée française, au bout d'un moment, devaient choisir entre... l'armée française, la soutenir la France ou la trahir et choisir le camp des révolutionnaires algériens. Donc ce sera demain au Ciné Diagonal. Le 3 février, le ciné-club Jean Vigo propose la projection du film de Robert Guédiguian, Lady Jane, à 20h au centre Rabelais. Vous pouvez avoir toutes les infos sur ce film sur www.cinéclubjeanvigo.fr. À 7, dans le cadre d'un partenariat, les médiathèques de Toaglo et Ciné, c'est toi, proposent une projection débat à 20h30 au Comédia autour du film de Théo Angelopoulos, Eleni, la terre qui pleure. Toutes les infos sur www.ciné-c-toi.moonfruit.fr. À Balaruc-les-Bains, ce sera le 4 février, une projection rencontre avec Claude Timon-Guénière qui est organisée par les écrans du Languedoc à la Maison du Peuple. Au programme, la projection à 18h30 de son film L'Enfant des Dunes, puis projection de son film Les Enfants du Diable à 21h. Tous les renseignements, c'est au 04 67 80 92 00. On peut parler aussi à Frontignan d'une projection rencontre avec Philippe Goudard, artiste clown et conférencier autour du film Le Cirque de Charlie Chaplin. Ça, c'est à 19h30 et c'est au Ciné Mistral, donc à Frontignan. Ensuite, on revient à Montpellier. Le 7 février, le cinéma Diagonal propose à 20h05 la projection du film Aliénation de Malek Bensmaïl, suivi d'un débat animé par Jacques Choucroun, historien du cinéma. Et ça, c'est dans le cadre du panorama sur le cinéma algérien qui débute cette semaine. Je pense qu'on recevra d'ailleurs Jacques Choucroun la semaine prochaine dans Cinérama. On termine peut-être avec le ciné-club Jean Renoir à Pézenas, qui propose une projection de débat autour du film Les Femmes du Caire de Yousri Nasrallah au cinéma Molière. C'est à 20h30, tous les renseignements, cinémamolière.com. On passe maintenant à toute autre chose. On va parler d'un cinéma plus particulièrement.
Cinéma Utopia, bon film et pépite.
Ben oui, c'est le film et le film est bien.
C'est comme un supplément de sensation qu'a apporté ce cinéma.
De quoi est-ce qu'il parle ?
Le cinéma m'a appris à aimer la vie.
Divergence FM vous donne le programme du cinéma Utopia.
À voir encore à l'Utopia du 2 février au 8 février, Angel et Tony, écrit et réalisé par Alix Delaporte. Hanover hier de Mike Lee, Cheminot de Luc Joulet et Sébastien Jousse, avec une apparition de Ken Loach dans ce film. Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois, En Promenade, c'est un programme de 6 films d'animation. Passe encore Faites le Mur, excellent film de l'artiste Banksy. Incendie, écrit et réalisé par Denis Villeneuve, c'est un film québécois adapté d'une pièce de Wadji Mouawad, auteur libanais. Le Narcisse Noir de Michael Powell et Emmerich Pressburger, ce sera sa dernière projection cette semaine. Le Nom des Gens, excellente comédie Rien à voir avec rien à déclarer. Donc le nom des gens de Michel Leclerc, que je vous recommande chaudement. Le président de Yves Jelan. Et il y aura aussi le Quattro Volte de Michelangelo Framartino. Film italien, très poétique. Même La pluie d'Issiar Bolin, scénario de Paul Laverty, qui est le scénariste habituel de Ken Loach. Sera projeté aussi Mystère de Lisbonne de Raoul Ruiz, Pianomania de Lilian Franck et Robert Sibis, Potiche, toujours à l'affiche, hein, film de François Ozon. Et puis ce sera la dernière projection de We Are Four Lions, la comédie britannique de Chris Morris. Si on parle simplement des événements, c'est-à-dire du film, avec un débat à la clé qui suivra, c'est Cheminot, demain jeudi 3 février à 19h30, avec un débat. Et puis la projection donc, de Président, ce sera le mardi 8 février à 19h30, avec la présence de Jacques-Olivier Tessier. Jacques-Olivier Tessier, qui est un journaliste très indépendant, radical, qui fait un formidable travail, et justement son travail, eh bien, vous pouvez le voir sur le blog, son blog Montpellier Journal. Voilà, c'était eh bien, le petit rendez-vous avec notre partenaire Utopia. Si vous voulez des infos, vous allez eh bien, sur le site internet des cinémas Utopia et vous cliquez sur Montpellier, puisque eh bien, Utopia, c'est une chaîne de cinéma. Ainsi s'achève Cinérama, et je remercie Bruno qui était à la technique comme à chaque fois. À la fin de ce générique, on écoutera un extrait du Cornio, parce que c'est vrai qu'en regardant le film de Danny Boone, Rien n'est déclaré, j'ai repensé au duo qu'on pouvait avoir avec De Funès et Bourvil. C'est quand même une légende du cinéma français, et je me suis souvenu donc forcément eh bien, de cette scène avec le cassage en règle de sa deux chevaux. C'est la 4L de Rien n'est déclaré qui m'a fait penser à la deux chevaux du Cornio. Et donc eh bien, ce sera l'extrait à la fin de ce générique. Bon cinéma, on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci avec Martin qui fera l'essentiel de l'émission.
Forcément. Ben, je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. Oh là là,
c'est pas grave.
C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Non. Qu'est-ce que je vais devenir, moi?
Eh ben, un piéton, vous plus.
Hein? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie.
Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite.
Mais je ne suis pas pressé, moi.
Alors, moi, je suis pressé, voilà. Ben, alors, voilà, c'est là. Ben, c'est fini, oui.
Mais je vous en prie.
Alors, voici ma carte.
Hein?
Voici ma carte, mon agent d'assurance vous contactera, voilà.
Ah, okay. Vraiment? Il y en a qui marchent pas de culot. Avec sa grosse bagnole. Léopold.
Cinérama.
Sarroyan, président directeur général. Je m'en fous, moi!
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.